Bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, nous continuons l'étude de l'évangile de Jean et nous arrivons au bout du bout. Nous avons commencé ça il y a au moins 2 ans, je crois. Et nous arrivons à l'épisode dont d'ailleurs Tahar a parlé dans sa présidence et qui est aussi revenu dans certaines prières. C'est le moment de la mort de Jésus, le moment de la croix, puisque il y a 15 jours, Emmanuel nous avait parlé de l'arrestation de Jésus et de sa remise au juge. Et là, aujourd'hui, c'est pas le passage le plus gai, je suis désolé, mais il faut en parler parce que Jésus étant parfaitement homme, il est né. Nous sommes à quelques jours de Noël, le paradoxe est amusant que ce soit à une semaine de Noël que le hasard fait que nous devions parler de sa mort. Mais s'il y a eu la mort, c'est qu'il y a d'abord eu sa vie. Et c'est aussi quelque chose qui peut donc nous parler à nous tous, puisque, comme tu disais dans ta dernière remarque, nous faisons partie de ce cycle-là et tous ceux qui nous ont précédés, dont il a été question, sommes pris dans cette même obligation. On est, on vit et on meurt. Mais évidemment, la mort de Jésus, elle est particulière, puisque d'abord, l'histoire ne s'arrêtera pas là. Sinon, ça serait un roman comme les autres, magnifique, mais pas plus exceptionnel que tout ce qu'on peut lire, puisque, évidemment, quelqu'un d'autre se chargera après moi de parler de la résurrection. Mais là, nous en sommes au moment de la mort, de cette humanité de Jésus-Christ, qui nous renvoie donc à notre propre humanité, puisque... Donc, cette humanité de Jésus, je disais, qui est la nôtre, et qui évidemment est très connue, puisque comme le disait déjà Emmanuel il y a 15 jours, il y a eu des films, tout le monde est au courant de cette histoire de croix, puisque même cette croix fait partie de la symbolique chrétienne, même quand on ne l'est pas, sur les églises, sur les poitrines, même dans l'histoire avec les fameux croisés. Voilà, la croix de Jésus, elle fait partie de notre civilisation judéo-chrétienne, et même ceux qui ne sont pas de cette civilisation-là connaissent les chrétiens ou cette civilisation à travers la croix. Mais cette croix, elle vient de quelque part, et c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ceci étant dit, cette connaissance de la Bible qu'on pourrait imaginer évidente chez tout le monde, même chez les non-croyants, ne l'est pas autant que ça. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Il y a 3 semaines, il y avait un spectacle d'un homme qui fait travailler ses chevaux, il s'appelle Bartabas. D'ailleurs, c'est un drôle de se faire appeler comme ça. Et il avait choisi de faire un spectacle qui s'appelait Golgotha. Et donc, c'était très beau, des chevaux, et à la fin, c'était un homme cheval qui était sur une croix, et tout le monde trouvait ça magnifique. Et j'avais amené une trentaine de mes élèves pour voir ce spectacle, qui était donc des adultes. Et quand on a fait le résumé ensuite... Je me suis rendu compte que personne ne comprenait pourquoi ça s'appelait Golgotha. Ils avaient compris la croix, donc le rapport au Christ, ça oui, même si pour eux ça ne représentait pas grand-chose, mais Golgotha n'avait pas de sens. Donc il s'est trouvé que là j'ai pu leur expliquer ce que c'était, en toute laïcité, entre guillemets, j'ai quand même réussi à placer ça. Donc en fait, ils le connaissent, le monde connaît cette mort-là, mais dans les détails, finalement ça... au fur des générations qui sont de moins en moins éduquées à la religion chrétienne, il y a plein d'éléments qui disparaissent. Et je voulais me demander, nous-mêmes, si, bien que nous baignions dedans, il y avait des éléments qui nous échappaient. Alors, je ne pense pas, parce que c'est quand même un épisode dont on parle très très souvent, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous relire ce texte sous un angle un peu particulier, c'est-à-dire que je ne vais pas simplement lire ce que l'on m'a demandé, c'était donc Jean, le chapitre 19, 31-44, je crois, parce qu'il se trouve que dans les 4 évangiles, il y a des éléments différents de la mort du Christ sur la croix, de cette souffrance, et chaque évangile apporte en fait un éclairage différent sur cette mort-là. Donc j'ai rien inventé, je vous rassure, je ne me suis pas permis de rajouter un iota à ce qui est écrit. J'ai simplement, pour la lecture de ce texte, pris les différents éléments de Marc, Luc, Jean, il y a un de Matthieu que je n'ai pas pris parce qu'il est équivalent de Marc, pour qu'on ait vraiment la vision complète telle que les évangélistes ont voulu qu'elle soit transmise, sauf qu'elle n'est pas transmise dans un livre, mais dans l'ensemble des quatre, comme d'ailleurs c'est souvent le cas pour les événements. Donc c'est pour ça que, José, tu n'en vas rien pouvoir mettre là-haut, parce que je vais passer de l'un à l'autre. Je m'excuse, à chaque fois avec moi, je te mets au chômage technique. Donc, écoutons ce texte. Je vais passer alternativement dans les trois évangiles. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que ce lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Et Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « voici, il appelle Élie ». Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Voilà. Là, nous avons la version complète de ce que fut cette agonie sur la croix. Et pour cela, il faut aller piocher, comme je viens de faire, dans les quatre évangiles pour retrouver ceci. Et ce qui est intéressant quand on mixe ainsi ces quatre évangiles et qu'on a toute cette crucifixion dans les oreilles, si je puis dire, et dans les yeux aussi, parce que les images sont fortes et des films en ont suffisamment traité, ou des tableaux célèbres pour qu'on ait des images. Ce qui est intéressant, c'est en mixant tout ça, c'est qu'on obtient, on tombe sur ce qu'on appelle maintenant et depuis longtemps les sept dernières paroles du Christ, qui ne sont jamais au complet dans un évangile. Il faut être sur les quatre pour avoir les sept paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Ces sept paroles sont évidemment connues, puisqu'elles ont donné lieu à des célèbres chefs-d'œuvre, tant musicaux que picturaux. Le plus connu, c'est évidemment les sept dernières paroles du Christ de Joseph Haydn, 18e siècle, que je vous conseille d'écouter. J'ai failli venir avec le disque à un moment et lire ce texte avec cette musique en arrière-plan, puis je me suis dit que c'était pas l'endroit, mais c'est une très belle musique et je vous conseille de l'écouter. Donc tout ça pour dire que ces sept dernières paroles qu'on obtient en mixant ces quatre évangiles, c'est le dernier message du Christ qu'il nous a donné en étant encore un homme. Puisqu'après, quand il va parler, il sera ressuscité, il sera plus homme, il sera redevenu Dieu, en quelque sorte. Donc, si elles existent, c'est qu'elles ont encore quelque chose à nous dire. Et c'est donc sous l'angle de ces sept paroles, ces dernières paroles, que je voulais vous parler de la mort de Jésus et de cet épisode. Parce que, au-delà du spectacle atroce dont il a été question, de la mort de Jésus sur cette croix, évidemment, ça nous renvoie à notre mort à tous, qui est la base même de notre relation avec Jésus. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas besoin de Jésus. C'est parce que, à la Genèse, notre désobéissance en tant qu'être humain vis-à-vis de Dieu nous a envoyés à la mort, que Dieu a eu besoin d'envoyer Jésus pour nous sauver. Donc, notre mort à nous est la base de notre relation avec Jésus. C'est parce que nous sommes morts devant Dieu qu'il a fallu que Jésus vienne pour qu'on redevienne vivant devant Dieu. Et je ne vais pas vous relire les quelques épisodes de la Genèse où Dieu donne vraiment des interdictions formelles. Si tu prends l'arbre de bien ou du mal, tu mourras, et puis poussière, tu retourneras poussière. Tout ça, nous le connaissons. Donc, il faut vraiment prendre conscience que cette mort qu'il subit là, c'est vraiment pour nous et c'est à cause de nous. Et comme Jésus ne fait rien pour rien, et on a vu dans toute l'étude de Jean, s'il parle sur la croix, c'est encore pour nous enseigner. C'est-à-dire jusqu'au bout, il va nous enseigner. Même pendant son agonie, même pendant sa mort, qui est l'image de notre mort à nous qu'il porte, et que l'on connaîtra tous un jour. Donc on va reprendre ces sept paroles dans l'ordre, telles qu'elles ont été lues il y a quelques minutes en faisant le mix, donc. Et vous allez voir que dans les dernières heures de sa vie, notre Seigneur a encore la force de ne pas penser à lui, mais de penser à nous et de nous délivrer le dernier message qui peut être le plus beau, parce que on a tous été auprès de personnes chères qui sont disparues. Souvent, on a pu être là pour entendre leurs dernières paroles et c'est toujours qu'un moment émouvant parce qu'ensuite, il n'y a plus rien. Donc, ce sont des paroles à prendre encore plus au sérieux, peut-être que toutes celles qui ont précédé, parce que ce sont les dernières du Jésus homme comme nous, pour nous. La toute première, donc, c'est Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La première leçon qu'il nous donne, c'est celle du pardon. Et Dieu sait si ces leçons difficiles à recevoir, parce que aimer, comme Jésus le dit plus tôt, ceux qui nous font du bien, c'est très facile, mais aimer ceux qui nous font du mal, c'est beaucoup plus difficile. Et le faire au moment où on est au bout de son existence, où on aurait envie de tenir notre esprit de vengeance, notre esprit de refus vis-à-vis de certaines personnes, lui, évidemment, nous dit « Non, pardonnez. » Ensuite, la deuxième parole, « En vérité, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, c'est quand il s'adresse au fameux brigand. Et là, évidemment, c'est une leçon d'espérance. Nous avons ces deux pauvres gars à côté de lui, un qui a le cœur plus ouvert que l'autre, dans des souffrances que je vous laisse imaginer. Et là, il a le courage de, encore une fois, de ne pas penser à lui, mais de penser à l'autre et lui dire « Courage, ce soir, toi, tu seras avec moi dans le paradis. Donc après le pardon, mais tout ça se fait dans un certain ordre. Il faut d'abord qu'il y ait le pardon pour que l'espérance se mette en route. La troisième parole, c'est quand il dit à Marie, « Femme, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère. » Là, évidemment, c'est une parole d'amour, puisqu'il, lui partant, il laisse désemparer sa mère, et on le serait à moins, et son disciple, comme tous ses disciples, qui évidemment avaient pour lui une immense tendresse et un amour puissant, eh bien, son départ, qui va provoquer du chagrin, du désespoir, il va le transformer en un nouvel amour à naître, un amour filial entre Marie, sa mère, et ce disciple qu'il aimait. Donc, cet amour-là, c'est aussi quelque chose que, évidemment, nous devons mettre en action, mais parce que d'abord, on a su pardonner, ensuite, il nous a donné l'espérance, alors à ce moment-là, on a la force de livrer cet amour-là, de le donner et de permettre qu'il ensemence en quelque sorte. La quatrième parole du Christ, et tu en as parlé, c'est donc « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une parole toujours un peu compliquée à comprendre de la part de Jésus qui était Dieu lui-même, donc qui en étant dans ses derniers moments totalement homme pour la dernière fois, va se permettre de ressentir ce qui est notre lot quotidien, peut-être pas quotidien, mais régulier, je pense, qui est le doute. Ce terrible doute qui fait que on a le sentiment que on sait qu'on a vécu des expériences avec Jésus, on est au fond de nous-mêmes puissamment ancré en lui. On sait qu'on a cette capacité à pardonner parce qu'on a l'espérance en Jésus qui nous permet de recevoir son amour et d'en donner. Et pourtant, le doute à un moment va arriver. Et je pense que plus on s'approche nous-mêmes, pour ceux qui ont la chance ou la malchance, je ne sais pas, parce que chacun y a le moment de sa mort est quelque chose qui est personnel et qui ne peut se vivre que seul. Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là? Est-ce que le doute va revenir? Est-ce que, eh bien, Jésus nous dit lui-même, ce doute-là, il est acceptable, il n'est pas honteux, il est même normal, il est humain. Donc, acceptez-le, ce doute, parce que d'avoir le doute, c'est déjà une manière de croire. Ceux qui ne croient pas n'ont pas le doute. Ils sont sûrs que ça n'existe pas, que ce sont des bêtises, que ça ne rime à rien. Donc le doute, c'est comme s'il y avait le noir, mais comme Yann l'avait expliqué une fois dans une prédication, s'il y a le noir, c'est qu'il y a la lumière de l'autre côté. Donc si on voit du doute, c'est qu'on a une croyance qui fonctionne. Donc ne fuyons pas ce doute, lui-même ne l'a pas fui. Acceptons-le, ça fait partie de notre condition humaine, et c'est peut-être le passage obligé pour encore plus de foi. Ensuite, la cinquième parole, il est sur sa croix et il dit « j'ai soif ». C'est encore dans le sens non plus du doute, mais de son extrême humanité. « J'ai soif », c'est quoi? C'est l'humilité de dire « j'ai un besoin, j'ai une souffrance, je ne suis pas bien, je suis mal, et pour ça j'ai besoin de boire quelque chose pour assécher ma gorge, dessécher ma gorge ». Et il le dit, il le prononce, il sait très bien qu'en fait il aurait pu tenir de dire, à la limite c'est une phrase un peu « j'ai soif », on se dit « qu'est-ce que ça vient faire là ?» Alors bien sûr c'est pour que la prophétie soit accomplie, mais je pense que ce moment-là sur sa croix, il est aussi parfaitement homme, dans une souffrance, dans une humilité qui est la nôtre, quand on dit « j'ai besoin de quelque chose, je suis en manque de quelque chose, je souffre de quelque chose ». Et à ce moment-là, pourquoi ne pas le réclamer? Pourquoi ne pas le demander? Pourquoi ne pas l'expliquer? Pourquoi ne pas le dire? Et c'est à ça que sert l'amour fraternel dont il était question dans une des prières aussi. Ça sert à aller voir quelqu'un dire « j'ai soif, j'ai mal, je ne suis pas bien, je ne comprends pas, je suis en souffrance ». Parce que lui-même, comme dernier message avant de mourir, il a exprimé en tant que pleinement humain ce manque-là, ce besoin-là. On n'a pas à être des chevaliers blancs de la puissance absolue et de la force. On ne peut pas y arriver. On va passer par le doute dont j'ai parlé, mais aussi par ce besoin humain de continuer à respirer un peu, de vouloir être mieux, d'arrêter de souffrir, d'arrêter de voir souffrir et de vouloir que tout se passe bien. C'est normal. Cette humilité face à notre condition humaine, il faut l'accepter. Parce que lui, il a accepté. Et c'est comme ça qu'on peut aller dans la direction de Dieu, puisqu'on voit tous ces manques-là qu'on exprime. Donc on voit bien qu'on est incomplet, et cette incomplétude, il n'y a que Dieu qui va pouvoir la remplir. Donc c'est parce qu'on a soif qu'il va nous donner à boire. C'est comme pour le doute de tout à l'heure, si je n'ai pas soif, il ne me donnera pas à boire. Donc nos manques, nos souffrances font partie de notre foi, en quelque sorte. La sixième parole, c'est « Tout est accompli ». Donc il a dépassé le pardon, l'espérance, l'amour, le doute, l'humilité, la souffrance. Il accepte. Il obéit. C'est l'obéissance. Comme quand Paul dit « J'ai achevé ma course, j'ai fait ce... » Voilà. À un moment, il faut dire « Tout est accompli ». Même ce qu'on n'a pas compris dans nos vies, même si ce n'est pas encore la fin de nos vies, il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas revenir en arrière, mais c'est accompli, c'est achevé. Et si on est dans les mains du Seigneur depuis un certain temps, bah tout ce qui s'est passé est accompli, est achevé, et c'est une manière de, peut-être pas de l'accepter, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais d'admettre que c'est notre existence, que c'est notre vie, et que si ça s'est passé comme ça, eh bien c'est que Dieu l'a voulu, d'une certaine façon. Alors peut-être qu'on lui a mis des bâtons dans les roues et que tout s'est pas passé exactement tel que le plan initial l'aurait souhaité, mais c'est notre condition d'homme. Tout est accompli, et cette phrase d'obéissance est absolument magnifique. Il aurait pu dire « tout est injuste ». Non, il dit, alors qu'il est vraiment à quelques minutes de sa mort, « tout est accompli, tout est achevé. Ce qui m'est arrivé est bon, ce qui m'est arrivé est bien, ce qui m'est arrivé est ce qui devait m'arriver. » Et heureusement, on ne peut pas s'arrêter là, parce que ça serait un peu négatif. La dernière des sept paroles qu'il prononce en tant qu'être humain encore vivant, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Donc, étant passé par toutes les étapes dont j'ai déjà parlé, le pardon, l'espérance, l'amour, le doute, l'humilité, il termine par la foi. Il termine par le bonheur de savoir que tout ça n'a pas été vain, que tout ça a un sens et que tout ça allait vers le Père, à qui on peut remettre notre esprit entre ses mains. Donc, sur cette croix, dans la souffrance qui est la sienne, regardez, si je reprends tous les termes, c'est tout ce que, toute la base de son enseignement depuis le début qu'on a étudié, le pardon, l'espérance, l'amour, le doute, l'humilité, l'obéissance et la foi absolue. D'ailleurs, c'est amusant que la dernière phrase qu'il prononce, ça soit, elle réponde en écho à la première qu'il prononce sur en tant qu'être humain, la première qui est, non pas évidemment qu'il a prononcée, mais la première qui est retranscrite par les évangiles, c'est 2, chapitre 2, 48-49, donc quand il a 12 ans, c'est la première fois que Jésus parle, que Jésus donne une parole à travers les évangiles. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Sa première phrase, c'est ça. Et sa dernière phrase, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » La boucle est bouclée. Il s'est occupé des affaires de son père. Ça a duré tous les chapitres qu'on a étudiés. Ça a duré toute sa vie. Et à la fin, tout est accompli. J'ai fait le travail. Et maintenant, je me remets à toi. C'est quand même... d'une force et d'un encouragement. Et c'est sous cet angle-là que je voulais parler de ce chapitre qui est quand même un chapitre assez épouvantable, assez terrible, on l'a lu en souffrance, parce que derrière cette souffrance-là se cache pour nous un message extraordinaire et qui devrait vraiment nous, même devant la terreur que la mort peut nous imposer à nous-mêmes, ou la souffrance épouvantable qu'on a pu subir devant des morts injustes ou prématurées, alors que les personnes n'étaient pas arrivées au bout du terme de leur existence. Gardons ça, gardons ces sept cadeaux que Dieu nous fait. Et puisqu'on est à la période de Noël, peut-être que le vrai cadeau, que, au-delà de ceux qui seront sous le sapin, c'est ça, ce sont ces sept dernières paroles. Et comme nous sommes, nous, encore vivants, il y a finalement une huitième parole dont on ne parle jamais, mais si elle est présente dans les évangiles, ce n'est pas pour rien. C'est dans Luc 23, et je l'ai lu. Donc, en disant ces paroles, il expira. Et juste après, bien sûr, ce n'est plus lui qui parle, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. La huitième parole, c'est la nôtre, encore vivant, c'est celle du témoignage. C'est-à-dire que si on reçoit les sept premières qui sont de lui, qui nous enseignent, la huitième, elle est à nous. Personne n'en parle jamais de celle-là. Mais elle est juste après. Regardez, en disant ces paroles, il expira. Donc ces paroles à lui, c'est fini. Et juste après, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Ça, c'est notre parole à nous. C'est la huitième. C'est celle que nous devons porter, parce que nous sommes encore vivants, nous ne sommes pas passés par la mort où Jésus était passé, et c'est notre responsabilité. Et même ceux d'après, le verset d'après, tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle après avoir vu ce qui était arrivé s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Ce qui est aussi une forme de témoignage. On me frappe la poitrine, on s'est trompé, on n'aurait pas pu faire ça, cet homme était incroyable, était le Fils de Dieu. Alors, après cela, le temps de Dieu est mis entre parenthèses. Pendant les 3 jours où il va être dans le tombeau, comme diraient les anarchistes, Dieu est mort. Il y a un moment de vide du pouvoir, en quelque sorte. Les hommes reprennent la main jusqu'à la résurrection, et c'est intéressant de voir comme après la violence et le cauchemar des scènes que l'on vient de lire, tout redevient normal, tout redevient organisé. Et c'était la fin du chapitre qu'on me demandait d'étudier, donc je vais le lire. Là, on redevient sur quelque chose de très, 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 très humain, où l'homme reprend les choses en main calmement, dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Or ça, cette histoire de rompre les jambes, pour ceux qui ne le savent pas, ça a un certain sens. En plus, c'est une expérience, alors vraiment, j'en ai déjà parlé, je l'ai vécu en toute pseudo-humilité. J'ai déjà été mis sur une croix, il y a longtemps. J'ai fait un film où on m'a fait jouer le rôle de Jésus, parce qu'à l'époque, j'avais les cheveux, le nez, parce qu'on croit que voilà. Donc j'étais très fier, et alors c'est un film, et on m'a mis sur une croix au sommet du lac de Saint-Cassien. Ils avaient planté une grande croix. Mais je vous promets, j'ai été sur une croix pendant 3 jours de tournage. Alors, j'y étais pas pendant les trois jours, je dirais 2, 3, 4 heures, etc. Bon, évidemment, je n'étais pas cloué, j'étais comme ça, j'étais juste ligoté. Il m'avait mis un petit siège, etc. Mais quand même, j'étais comme ça. Et je vous promets, au bout d'un quart d'heure, j'ai dit, attendez, si vous ne descendez pas, je meurs. Alors que j'avais juste le poids de mon corps, les bras comme ça, je suffoquais. Et donc, ils ont dû prendre quelqu'un de l'équipe de tournage spécialement, qui pendant les 3 jours se contentait d'être sous mes genoux pour me les remonter, pour que je puisse respirer. Et donc, je me suis vraiment rendu compte. Alors, évidemment, je ne me compare absolument pas, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été mises en croix. Donc, je peux vous le dire, quand vous, rien que d'être comme ça, on vous met sur une croix, sans vous clouer, sans rien, vous mourrez tout seul au bout d'un certain temps. C'est votre corps qui vous fait mourir parce que vous n'arrivez plus à respirer. Donc c'est pour ça qu'on voulait briser les jambes, parce que si tu brises les jambes, le corps s'affaisse, tu ne peux pas le remonter et tu mords par asphyxie. Donc c'est pour ça qu'on voulait briser les jambes et celles de Jésus donc n'ont pas été brisées, puisqu'il y avait la prophétie pour qu'ils ne soient pas brisés. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il est dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, et c'est là que les hommes s'organisent dans le temps d'absence de Dieu, en quelque sorte. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alors, j'ai été très étonné en lisant ça, c'est comment la manière dont les hommes, gèrent l'après-crucifixion, de me dire que cet ensevelissement de Jésus se rapproche beaucoup de ce qui s'est passé à Noël, puisqu'on parlait de Noël au début. Il y a une espèce de catimini, tout ça se fait rapidement, en cachette presque. Marie accouche. Bon, personne n'est au courant, juste dans une espèce d'étable ou un bout de grotte parce qu'il n'y avait rien de disponible. Et Jésus arrive au monde dans cet anonymat-là. Et Jésus quitte le monde en tant qu'homme dans cet autre anonymat-là. On sent que, comme il faisait noir, les ténèbres, tout le monde a dû vite partir. Il y en a quelques-uns qui sont venus, qui l'ont pris. Qu'est-ce qu'on en fait ? On le nettoie comme un bébé qu'on emmaillote. Et ben on lui met ses bandes de sépulture, et puis on ne sait même pas où le mettre. Comme il n'y avait pas de place à l'auberge pour Jésus, il n'y a pas de place pour Jésus dans un tombeau qu'on aurait pu lui préparer quand même. Donc heureusement, on trouve quelque chose là qui est libre, qui n'est pas loin. On le met là et c'est dit parce que c'est pas loin. Si ça avait été mieux, mais plus loin, on n'aurait pas pris, parce que là, comme le sabbat va commencer, il faut vite le mettre là. Et c'est quand même un homme qui aurait mérité un enterrement en grande pompe, quand même, de la part de tous ses disciples, tous ceux qui l'ont aimé, qui l'ont suivi, tous ceux qui étaient là quand il est rentré sur son âne, tous ceux à qui il a fait du bien, non, ça se fait vite comme ça, comme sa naissance. Et c'est amusant comme aussi, il y a quelques jours plus tard, il y a les mages qui apportent de l'encens et autre chose, et là il y a un puissant, Nicodème, qui lui met de la myrrhe, qui est un des trois cadeaux qu'avaient apporté les mages. En fait, Jésus-Christ va, 3 jours plus tard, sortir du ventre de la terre, sortir de ce tombeau, comme 33 ans plus tôt, il était sorti du ventre de sa mère. Il y a une espèce de boucle qui fait qu'en fait, Noël, qu'on va fêter dans quelques jours, et Pâques, c'est finalement la même fête. C'est la fête de la vie, et de la vie qui est plus forte que la mort, de cette mort qu'on a choisie nous, et que Jésus est venu nous enlever, nous ôter, à travers ces 7 paroles dont on a parlé. Donc, j'aimerais et j'espère que cette manière de parler des derniers moments du Christ, en fait, va vous laisser, comme ça m'a laissé à moi en étudiant ça, finalement, un immense sourire, un grand bonheur, une grande espérance, une grande foi. Ce n'est pas triste, c'est triste pour les autres qui ne savent pas, qui ne vont pas connaître la 8e parole de notre témoignage et qui ne vont pas l'accepter. Mais pour nous, c'est cette mort, c'est Noël aussi.